Et donc, c'est ce qui est en jeu. Et je fais tellement de réunions, je dépense le maximum de mon énergie pour cela, c'est que ce n'est pas encore bien perçu. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'incertitude. Oh oui, il nous faut reculer là-dessus, mais on les aura un petit peu. Oh là, on bloque un peu, mais on négocie, etc. Alors qu'on a un projet cohérent en face de nous. Ce ne sont pas des gens qui avancent à tâtons. Ce sont des gens qui, depuis 10 ans, avancent systématiquement et qui, depuis 2002, avancent brutalement. Et les lois Fillon du 4 mai 2004, peu connues, pourtant une loi inique, immonde, lançant le rapport de Virville en 2004, le monsieur qui a succédé temporairement à Gauthier Sauvagnac et puis qui lui a donné 1,5 million avant de passer la main. La politique de Larcher, celle de Villepin, le poète, hein, qui a fait quand même rétabli le travail pour les apprentis à 14 ans. Et à 15 ans, on peut à nouveau en France, depuis 2005, faire travailler un môme le dimanche et la nuit. Hein, comme symbole de recul en arrière, c'est considérable. Et Villepin avait tenté avec le CNE, heureusement cassé par l'OIT, à cause de la convention numéro 158 signée par la France et 48 autres pays, qui dit qu'on ne peut pas licencier sans motif, il avait quand même tenté de faire qu'on puisse licencier sans motif pendant 2 ans. D'abord pour les petites entreprises de moins de 20 et ensuite pour tous les jeunes, avec le fameux contrat de première embauche. Et Villepin, dans son ordonnance, dans ses ordonnances de l'été 2005, avait l'intention d'aller beaucoup plus loin. Alors on ne le sait pas, mais quand on a gagné contre le CPE, c'était il y a 2 ans. Vous vous rappelez, quand même, il y avait 3,5 millions de personnes dans la rue. S'ils n'avaient pas cédé, il y en aurait eu 5 millions. 87% de l'opinion à la fin était contre le CPE. Au début, on avait dit, ah, la majorité de l'opinion est pour. Mais dès qu'il y a eu l'information, la majorité était nettement contre. Et puis, comment il avait fait Chirac, il avait promulgué une loi dont il demandait qu'elle ne s'applique pas. Je raconte toujours ça, parce que moi, j'étais ce soir-là dans le Limousin. Je crois que c'était un forum social Limousin à Ussel. Et je cherchais, avant le début de la réunion, je cherchais un poste de radio, de télé pour écouter le discours de Chirac. Je n'y arrivais pas. Et si je m'en souviens, c'est parce que c'était mon portable qui avait sonné. Et c'était un ami à moi, grec, d'Athènes, qui m'appelait. Puis qui me dit, Gérard, qu'est-ce qu'il fait? Il travaillait à l'agence de presse. Et il me dit, Gérard, qu'est-ce qu'il fait? Il promulgue une loi dont il demande qu'elle ne s'applique pas. Alors je lui dis, écoute, j'ai du mal, je ne comprends pas. Il me dit, comment j'explique ça aux Grecs? Écoute, avec les Grecs, tu te débrouilles. Mais il me dit, on a tous les yeux tournés vers vous, ici. Et c'est vrai que, quand même, c'est extraordinaire, ce moment. C'est pas si vieux que ça. C'était il y a 2 ans. Il faut se souvenir des bons moments. Puis ça peut revenir. Hein. Il avait demandé, en 8 jours, à ses chefs de groupe parlementaire de réécrire la loi qu'ils avaient mis 2 mois à écrire dans l'autre sens, contre l'avis de son ministre de l'Intérieur, qui au début avait dit c'était mon idée, mais qui avait changé en cours de route, et contre l'avis de son premier ministre, qui disait c'est toujours mon idée, mais qui laissait faire. Enfin, je résume à peu près ce que était la débâcle quand Chirac promulguait une loi dont il demandait qu'elle ne s'applique pas, en avril 2006, il y a tout juste 2 ans. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on a échappé, grâce à notre mobilisation contre le CPE, on a échappé à la promulgation du nouveau Code du travail en mai-juin 2006. Car Villepin avait l'intention de le faire à ce moment-là. Ce qui va arriver demain, il voulait que ça soit fait en mai-juin 2006. Et c'est parce qu'il a été battu sur le CPE qu'il n'a pas pu le faire. La commission de recodification avait déjà travaillé depuis 1 an. Elle avait été mise en place par Larcher le 16 février 2005. Et dedans, il y avait 5 recodificateurs. Alors, Jean-Denis Combrexel, je le cite toujours en premier, c'est mon patron, directeur général du travail, et il m'a dans la ligne de mire. Faut dire que Liaison Sociale disait au mois de janvier dernier, dans son mensuel, que Jean-Denis Gauthier Sauvagnac, Jean-Denis Combrexel mangeait chaque mois avec Denis Gauthier Sauvagnac. Bon. Donc Jean-Denis Combrexel a présidé à la recodification, avec un certain Christophe Radet, un universitaire bordelais, qui a réécrit tous les articles, ils ont mis des mois et des mois. Radet, je le cite parce que c'est quand même le gars qui a écrit la préface du nouveau code, et il a écrit dedans, il faudra des mois, voire des années, pour que le nouveau code révèle tous ses secrets. Il était bien placé pour le savoir. Il avait comme mandat de rendre le code plus lisible et plus accessible au grand public. Il termine sa préface en disant, ce sera un effort colossal pour les usagers. Alors, il faut dire que c'est vrai. Ils ont, là où il y avait 273 subdivisions dans le code, ils en ont mis à peu près 1890. Là où il y avait à peu près 1850 articles de loi, ils en ont mis 3850. Ils ont passé de 9 livres à 8 livres. Et ils ont redécoupé toutes les lois, renumérotant tout, ce qui d'ailleurs va faire s'écrouler les jurisprudences, parce que toutes les jurisprudences étaient basées sur la structure même des lois. Et là, évidemment, elles vont être rebâties pendant des années et des années. Alors, leur travail était un travail assez technique, d'experts, comme ils disent. Alors dedans, le troisième recodificateur que je voudrais présenter à votre connaissance s'appelle Jacques Barthélémy. C'est le directeur du plus grand cabinet d'avocats de Paris, du MEDEF, avec 400 juristes, seuls du MEDEF. Les caisses noires de l'UMM, elles ne servent pas à rien, vous savez. Et Jacques Barthélémy était au cœur de cette recodification avec Combrexel, avec Radé. Et ils ont bossé pour... alors, en associant les syndicats, ont-ils dit. Et moi, j'ai interviewé les syndicalistes. Ils étaient invités une fois par mois. On leur donnait la veille au tas de papier. Ils avaient le droit de lire très vite et de faire des remarques. Leurs remarques n'étaient pas prises en compte et ça recommençait le mois suivant. Vous voyez, l'association des syndicats était telle qu'ils s'y sont opposés. Bon, à un moment donné, je vais vous le dire, parce que quand Villepin n'a pas pu proclamer le nouveau code en mai-juin, tenez-vous bien, chers amis, le délai était épuisé le 30 septembre 2006. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus le faire. Alors, ils ont fait une astuce, ils ont fait un cavalier parlementaire dans une autre loi. Un cavalier, c'est un article de loi qu'on met pour qui parle d'autre chose que de la loi dont il est question. C'était la loi sur l'intéressement et la participation, qui elle-même a été promulguée le 30 décembre 2006, la veille du réveillon. Et l'article 57 de la loi renouvelait le délai pour que la recodification puisse se faire entre le 1er janvier 2007 et le 30 septembre 2007. Et dès janvier 2007, on était campagne présidentielle qui démarrait, bien sûr. Larcher, le ministre, a dit au Sénat, on va le faire avant la présidentielle. Même les sénateurs de droite n'y croyaient pas. Même les sénateurs de droite. Et Larcher l'a redit aux 5 organisations officiellement représentatives, la Commission nationale de la négociation collective, le 6 février 2007. Et les 5 syndicats s'y sont opposés. C'est le moment où ils font une lettre commune des 5 syndicats, publié le 14 février 2007, qui dit non, ne faites pas ça. Et Chirac le fait, tenez-vous bien, le 7 mars 2007 en Conseil des ministres. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est pour ça que je vous ai raconté mon histoire tout à l'heure. Il promulgue l'ordonnance en précisant qu'elle ne s'applique pas tout de suite. Il s'est érodé. L'ordonnance paraît, c'est une ordonnance, ce n'est pas une loi. Le Parlement n'a plus après qu'à ratifier. L'ordonnance paraît le 12 mars 2007. Elle fait 994 pages, format A4 du journal officiel. Tout le code est réécrit dans un silence total. On est en pleine campagne présidentielle. Il n'y a pas une de télévision, pas une de journal, pas un article de la grande presse qui fera le débat. Vous n'aurez pas un candidat qui soulèvera la question. Aucun. Aucun. Pourtant, ce n'est pas faute d'être averti. Je peux vous dire que les inspecteurs du travail, le syndicat de la magistrature et un certain nombre de juristes qui étaient quand même qui suivaient ça déjà depuis un an, effrayés, on envoyait pour faire de la pédagogie, alors on envoyait une petite note en disant attention, après on prenait quelques exemples, après on essayait de dire voilà ce qu'il y a. Au début, on avait du mal parce qu'ils n'avaient même pas dans le journal officiel mis la nomenclature qui nous permettait de comparer les deux textes. La nomenclature ne nous a été accessible que quand le Dalloz l'a fait, c'est-à-dire en l'été 2007, et le premier de nos collègues, qui s'appelle, je le salue toujours, Richard Abosit, inspecteur du travail en retraite à Montpellier, et il a pris 2 mois et demi, il a fait 85 pages de comparaison des deux textes dans lesquels on voyait que ce n'était naturellement pas à droit constant, et que les gens qui avaient recodifié n'avaient pas respecté leur mandat, et qu'ils préparaient la destruction du code, et ensuite l'arrivée de beaucoup d'autres projets de loi, comme il disait, ils anticipaient sur l'avenir. Ils l'ont écrit sous cette forme. Et le Conseil des ministres du 18 avril, 4 jours avant le premier tour, toujours dans le silence général, a renvoyé ça au Parlement. C'est arrivé au Sénat, parce qu'il peut maintenant faire passer les choses au Sénat avant l'Assemblée. Le 26 septembre, le même jour où on a trouvé les caisses noires de Gauthier-Sauvagnac, le 26 septembre 2007, c'est-à-dire que les sénateurs ont reçu les 994 pages la veille, et ils ont voté montre en main en 25 minutes. D'accord ? Et ensuite, c'est arrivé à l'Assemblée nationale, nous n'avions toujours pas réussi à percer le blackout, Nous avons réussi à faire une conférence de presse le 3 décembre, la veille que ça arrive à l'Assemblée nationale. Là, on avait tous les syndicats de l'inspection du travail, on avait le syndicat de la magistrature, et on avait les trois groupes parlementaires de gauche, incarnés pour les Verts par Martine Billard, qui fut dans une autre vie délégué du personnel dans une petite boîte, et qui donc comprenait l'importance de la question, par Alain Vidalis pour le Parti Socialiste, parce qu'il était avocat de droit du travail, et pour le Parti Communiste, par Roland Museau, qui était lui-même un ancien délégué CGT à la SNECMA. J'ai découvert à cette occasion, pour vous dire quand même, que sur 577 députés, il n'y a que 4 anciens ouvriers et 6 anciens employés. Et qu'ils sont pour tous, sauf 2, ils sont pour tous dans le public. Donc il y avait personne qui avait vécu, connaissait, était motivé par le code du travail de droit privé. Et celui dont je parle, pourtant, concerne 16 millions de salariés, parce que c'est 1 million 200 000 entreprises ayant au moins un salarié, et 16 millions de salariés du secteur privé. Sans parler de ceux qui sont en mouvement entre le public et le privé, ni sans parler du public qui va, je vous le dis pour ceux qui sont fonctionnaires ici, subir le même sort dans les mois qui viennent que ce que je vais vous décrire pour le code du travail privé. Alors, nous, on a réussi à faire un petit peu, il y a eu un article dans Libé par chance, ça faisait 2 ans qu'on essayait, dans toute la presse, hein, je vous assure, et un article qui est passé avec comme titre, ils ont mis « Massacre du code du travail dans un silence général ». J'étais fort content qu'il y ait le titre. Vous savez que la première personne qui m'a appelé, c'était le 23 novembre dernier, était membre du Conseil constitutionnel. Le seul qui reste désigné par la gauche, Pierre Jobs, qui m'a invité. Et qui m'a... C'est la première fois que je voyais le Conseil constitutionnel. Très beau, hein. La moquette est impeccable. Des grands écrans, des chauffeuses pour les 11 bureaux qui se succèdent en enfilade au-dessus des colonnes de Buren. C'est magnifique, magnifique. Mais il y a avec Pierre Jock qui s'est intéressé au code du travail, qui m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je tombe de l'arbre, comment c'est possible qu'on ait fait un truc pareil? Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu peux faire et tout? Bah, il dit, t'as vu les 10 autres? J'ai aucune chance. Ils s'en foutent du code du travail. Et je lui ai dit, on pourrait aller prendre sur la procédure, tout. Il a dit, bah, il n'y a aucune chance non plus, parce qu'ils diront, même si la procédure n'était pas bonne, s'il y a eu un cavalier parlementaire, si, etc., etc., ils diront, on ne va pas remettre en cause la procédure maintenant que le travail est fait. Ce qui s'est produit le 17 janvier 2007. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a refusé la saisine que nous avons faite. Et donc maintenant, c'est en route. En route. Pourquoi seulement maintenant? Parce que la clause qui faisait que les lois allaient rentrer en vigueur était dépendante du fait que les décrets seraient réécrits. Et ils ne l'étaient pas l'année dernière. Ils l'ont été achevés au début du mois d'avril. Et donc tous les décrets sont maintenant dans le nouveau code que le Dalloz vient de publier, qui a repris sa taille normale, un peu plus gros même qu'avant, et qui rentre en vigueur à partir de demain. Alors, je vous ai décrit ça parce que quand il y a des sales coups, ça se fait toujours salement. Hein, j'ai une haine particulière, je le dis, contre les gens qui ont fait ce travail. Il y a de la collaboration là. Parce qu'un code du travail comme ça, on n'y touche pas dans le dos des syndicats. On n'y touche pas dans le dos des salariés. On n'y touche pas sans débat public. On n'y touche pas sans que les élus du Parlement... puissent avoir leur mot à dire. Or là, tout a été fait pour qu'il soit dessaisi et que ça se passe de façon technocratique, dans un silence général, sans débat dans le pays. C'est exactement comme les traités internationaux qu'on négocie et qu'on vous interdit ensuite d'exprimer votre opinion dessus. Et évidemment, s'ils voulaient faire ça, c'est parce que l'équipe qui travaillait était une équipe qui avait des visées masquées, sournoises, bien cachées, comme ils disent, il faudra des mois, des années, pour voir les conséquences du travail qu'ils ont fait. Ils le disent eux-mêmes, hein, ils s'en moquent de la représentation nationale.